tous.
Bonjour.
C'est une joie de vous revoir. Avec, cette semaine, nous avons pu faire un effort d'évangélisation dans le quartier. Je suis content pour. Je me réjouis pour notre soeur Christine, qui a fait une décision vendredi. Et quand je suis rentré ce matin, je suis allé embrasser, elle m'a dit je disais à tout le monde. Je disais à tout le monde.
Jésus. Et ça, c'est magnifique. Je vous souhaite une cordiale bienvenue aussi à Dorothée. Et si ce n'est pas encouragé, Boris, Dorothée, vendredi soir, elle m'a dit qu'elle habitait juste à côté, ici, dans les anciennes maisons luminales. Et qu'à Noël, souvent, on ne voit pas, on chante, les gens ouvrent la porte, on sonne, les gens ouvrent la porte et on chante un cantique de Noël. Et Dorothée me disait que à chaque fois qu'elle fermait la porte, elle pleurait. Alors, on ne sait pas comment Dieu peut toucher les cœurs. Elle est ici, elle a accepté l'invitation de Suzanne cette semaine, la semaine passée. Elle est ici, je remercie le Seigneur de pouvoir voir ces personnes qui sont avec nous pour la première fois. Je pense à notre sœur ici, qui vient de l'église de Victoire-Casserta, qui est maintenant à la maison de repos chez Antoinette, alors qui peut se trouver une église maintenant, qui peut se déplacer, qui est à quelques cent mètres de la maison. Alors, c'est magnifique ce que Dieu a fait tout au long de cette semaine. Je dirais que c'est une des bonnes missions vacances que nous avons vécues ensemble. Il y avait une équipe incroyable. Il y avait plusieurs personnes dont c'était la première fois qui allaient dans les rues pour rencontrer les gens. Et Dieu les a bénis richement. On a eu de bonnes conversations aussi avec les gens dans le parc de la Bouverie. Et Dieu est à l'œuvre. La parole a été semée. Et on verra ce que Dieu va continuer à faire dans le cœur de ceux qui ont entendu parler de Jésus-Christ. Je vous invite à tourner pour notre dernière, pour la série sur Jonas. C'est dans Jonas chapitre 4. Jonas chapitre 4. C'est le dernier chapitre, c'est pas un grand livre, c'est un livre de 4 chapitres. Et nous avons vu, pendant que vous tournez, eh bien, je veux simplement vous rappeler que nous avons vu dans les semaines précédentes que Dieu avait appelé Jonas à aller à Ninive et que Jonas s'était enfui en prenant un navire pour Tarsis. Dieu avait alors provoqué une tempête et les marins, apprenant de la bouche de Jonas que la cause de leur malheur, c'était lui, eh bien, sur le conseil de Jonas, eh bien, ils l'ont lancé à l'eau. Et la tempête s'est arrêtée immédiatement. Et qu'est-ce qui est arrivé suite à ça? Eh bien, voyant que le Dieu de Jonas avait mis sur pied la tempête et qu'il l'avait arrêtée, eh bien, ces marins se sont convertis, ils ont rendu grâce, ils ont adoré le Seigneur. Et Dieu va envoyer ensuite un grand poisson, parce que Jonas est toujours dans l'eau, et qui va avaler Jonas, qui va passer 3 jours et 3 nuits dans le grand poisson. Et tout ça, frères et sœurs, ça se passe uniquement au chapitre 1. Et finalement, Jonas va se rendre à Ninive, il va prêcher un sermon de 7 mots, et encore 40 jours et Ninive sera détruite. Résultat, tous les habitants de la ville vont se repentir. C'est le plus grand réveil, en tout cas un des plus grands réveils, qui est survenu dans l'histoire. Nous pourrions penser que Jonas serait heureux de la tournure des événements, mais on va lire en fait le chapitre 4 ensemble pour voir sa réaction, pour voir son état d'âme. Jonas le prit très mal. Il fut très irrité. Bon, Jonas n'a pas aimé du tout que les gens se convertissent, que les gens se repentent. Il pria l'Éternel en disant, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. Je voulais éviter que les gens se convertissent. » C'est grave, hein, de prier le Seigneur de cette façon-là. Il est en train de prier, là. Il dit, « En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion. » Lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter, Jonas? Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas, pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant, « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit, « Tu as eu pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche, plus un grand nombre d'animaux. Frères et sœurs, ce matin, lorsque Jonas voit le Seigneur sauver la ville de Ninive, il y réagit très mal. Au verset 1, il est écrit qu'il fut très irrité, pas irrité, mais très irrité, et que Dieu n'ait pas anéanti les gens de Ninive. Et pourquoi était-il si furieux? Je vais vous donner trois raisons. La première, c'est qu'une des caractéristiques qui confirmait un vrai prophète, et qu'une personne était un vrai prophète à cette époque, c'était que ses prophéties se réalisaient toujours. Et Jonas, il s'était promis dans la ville, il avait dit dans 40 jours, eh bien, Ninive sera anéantie. Si ce que Jonas avait dit ne se produisait pas, il serait alors considéré comme un faux prophète. J'ai trois raisons à vous donner, je vais vous en donner une deuxième. Ses frères juifs seraient fâchés contre lui pour avoir prêché un message de salut à des non-juifs qui, en plus, sont les ennemis des juifs. Ils pourraient voir Jonas comme étant un traître. Et la troisième, eh bien, il ne faut pas se le cacher, le texte est clair. Jonas détestait le peuple de Ninive. Rien ne lui aurait fait plus plaisir que de voir Dieu détruire toute la ville. Avant d'être trop dur avec Jonas, peut-être avons-nous besoin de regarder notre propre vie et prendre le temps de réfléchir sur la façon dont nous avons réagi dans le passé lorsque le Seigneur nous a appelés à le servir. Combien de fois avons-nous réagi comme Jonas quand Dieu a fait quelque chose qui allait à l'encontre de nos plans? Peut-être devons-nous nous rappeler qu'il est écrit que l'homme élabore des plans, mais que c'est le Seigneur qui en dirige la réalisation. Au verset 2 ici, on voit que Jonas parle à Dieu et lui fait part de son mécontentement. Il dit au Seigneur qu'il savait que ça allait se passer ainsi. Il dit, je répète ce qu'on vient de lire, « Je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion. » Et on peut rendre grâce aujourd'hui qu'on sert encore un Dieu de grâce et de compassion. Lent à la colère, c'est-à-dire patient, riche en bonté, et qui se repent du jugement qu'il voulait appliquer à Ninive. Voilà pourquoi Jonas s'est enfui. Il aurait voulu que ça se passe autrement. Voilà pourquoi il est fâché. Sa douleur et sa colère sont si tellement profondes qu'il tente même de s'en prendre au Seigneur. Qu'est-ce qui a déplu au Seigneur, qu'est-ce qui a déplu à Jonas, frères et sœurs, pour le mettre dans cet état? Bien, c'est le fait que Dieu se soit ravisé et qu'il soit revenu sur sa décision d'exécuter son jugement. L'attitude de Jonas est très claire dès le début. « Je serai l'homme le plus heureux du monde, Seigneur, en autant que tu les envoies directement en enfer. » Tire le levier, ouvre la trappe, fais ce que tu as à faire, Seigneur, mais envoie ces gens en enfer. Voilà la façon dont Jonas voulait que Dieu agisse, frères et sœurs. Jonas considérait que le fait que Dieu ait pitié d'eux était quelque chose de mal. Voilà ce qui déplut fortement Jonas quand vous lisez le contexte. Lorsque Dieu manifeste de manière inattendue sa grâce à des pécheurs, Jonas considère cela comme étant quelque chose d'inacceptable. Nous comprenons enfin pourquoi au tout début, Jonas était si réticent à se rendre à Ninive, car il savait qu'il servait un Dieu de grâce. Cependant, ceux qui aiment le Seigneur se souviennent que Dieu sait parfaitement ce qu'il y a de mieux pour ses enfants et qu'il agit en conséquence. C'est ce que Job disait à son époque, « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, je n'ai qu'à remercier le Seigneur. » Dans tous ses malheurs, Job ne commet aucune faute, il ne dit rien d'inconvenant contre Dieu. Il dit même, je suis au monde nu comme un ver, et c'est nu comme un ver que je vais retourner à la terre. Le Seigneur a donné, et le Seigneur a repris. Frères et sœurs, si le Seigneur devrait reprendre nos biens, si le Seigneur devait reprendre notre santé, est-ce qu'on serait capable de prononcer ces mêmes paroles que Job? Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que son nom soit loué, que son nom soit béni. Voilà, c'était les paroles de Job à son époque. Et on sait que Job avait vécu une maladie épouvantable. S'il y en a un qui aurait bien pu se plaindre de Dieu, c'était bien Job. Mais Job savait que ce qui lui arrivait, malgré la maladie, malgré la perte de ses biens, malgré la perte de ses enfants, il savait que pour celui qui aime le Seigneur, eh bien, le meilleur est à venir. Et à la fin du livre, dans les derniers chapitres, parce que Job a fait confiance au Seigneur, Dieu va le bénir doublement par rapport à tout ce qu'il avait perdu avant. Dieu va lui donner le double de ce qu'il avait perdu. On a un grand Dieu, un grand Dieu, un Dieu qui est gracieux, un Dieu qui nous aime. Et Et ça, eh bien, ça, pardon, Jonas ne l'avait pas encore compris. Ce qui est triste et drôle en même temps ici, c'est que Jonas est heureux que Dieu lui fait grâce, mais qu'il ne peut pas supporter que Dieu ait fait grâce aux habitants de Ninive. Regardez au verset 3, Jonas dit, « Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » Et pour le dire autrement, eh bien, il n'était pas le seul à avoir fait une telle prière. Rappelez-vous, Moïse avait fait cette prière-là, quand à un moment donné, il n'en pouvait plus d'entendre les critiques et les remises en question du peuple. Eh bien, dans Nombre, chapitre 11, verset 15, Moïse redemandait au Seigneur de lui reprendre la vie. Il en fut de même avec Élie. Rappelez-vous Élie, quand il est assis sous le genêt, il entend une femme, Jézabel, qui dit, écoute, je vais avoir la peau d'Élie avant ce soir. Et j'ai Élie, il oublie tous les miracles que Dieu a fait dans sa vie, et il part en courant, et il s'en va se cacher. Il a peur d'une femme, et il s'en va se cacher. Il fait la même demande que Jonas. Seigneur, je regrette d'être venu au monde, Seigneur, prends ma vie. Quelle attitude méprisable et inacceptable manifestée par Jonas ici, le soi-disant homme de Dieu. Lorsqu'il était dans le ventre du poisson et qu'il pouvait mourir à tout moment, il voulait vivre. Et maintenant, après avoir été témoin du plus grand réveil de l'histoire, il prie en disant « Mourir vaut mieux pour moi que vivre ». Essayez de comprendre Jonas. En lisant ce livre, nous pourrions le porter à dire « Seigneur, que vas-tu faire de Ninive ?» Mais la vraie question, c'est pas « Seigneur, que vas-tu faire de Ninive ?» La vraie question, c'est « Seigneur, que vas-tu faire de Jonas ?» Dieu sait comment agir avec les pires pécheurs, il les sauve. Voilà comment Dieu va agir avec les pires pécheurs, il les sauve. Mais que va-t-il faire avec les membres de l'Église qui sont indifférents, arrogants et irrités parce que certains s'intéressent à ceux qui sont perdus? C'est un moment beaucoup plus grave. C'est un problème beaucoup plus grave, pardon. C'est ce que je voulais dire dans un des sermons précédents lorsque j'ai dit qu'il y a un peu de Jonas en chacun de nous et beaucoup de Jonas chez la plupart d'entre nous. Versets 4 et 5, après que Dieu lui confrontait à sa colère, il est écrit que Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une petite cabane et il s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Jonas espérait toujours que Dieu enverrait le feu et le souffle et détruirait la ville, et que quand cela surviendrait, il serait assis au premier banc pour assister au spectacle. Mais Dieu avait d'autres plans que celui de détruire la ville. Et frères et sœurs, peu importe ce qui survient dans vos vies, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves, Dieu ne vous a pas sauvés pour tenter de vous détruire à tout prix par après. Le monde était capable très bien de le faire sans Dieu. Dieu nous a sauvés, non pas pour nous détruire, mais pour faire en sorte de nous construire une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et c'est ça qui est extraordinaire. Dieu t'emmène à ça. Vraiment important. Vraiment important. On a un Dieu extraordinaire. Si, voilà. Non seulement Dieu, au verset 6, va répondre en manifestant beaucoup de tendresse envers Jonas, même si Jonas était en colère contre lui, mais dans sa grâce, il va faire pousser un ricin, une sorte d'arbrisseau, au-dessus de la cabane du prophète pour le mettre à l'abri du soleil et lui accorder un peu de réconfort. N'est-ce pas une bénédiction, frères et sœurs, de savoir que même lorsque nous n'obéissons pas toujours à la volonté du Seigneur, il continuera à nous protéger. Nous n'avons qu'à penser au prophète Élie, encore une fois, l'exemple que je vous ai donné tantôt. Frères et sœurs, combien de fois Dieu a-t-il continué à vous bénir et à vous utiliser, même lorsque vous ne faisiez pas nécessairement pleinement sa volonté? Nous pouvons remercier Dieu dans sa grâce ce matin, car là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et elle est encore, la grâce de Dieu est encore beaucoup plus abondante que notre péché. On est Dieu, on a besoin d'apprendre à découvrir ce Dieu que nous servons, ce Dieu qui pourrait porter son jugement sur ce monde qui baigne dans le péché, qui a abandonné Dieu, qui vit comme bon lui semble. Et Dieu, malgré ce que Dieu voit, malgré les horreurs que Dieu voit à l'extérieur, malgré les abus que Dieu voit à l'extérieur, le cœur de Dieu, c'est toujours de vouloir en sauver le plus grand nombre possible. Le cœur de Dieu, c'est toujours de retenir son jugement, parce qu'on sait que quand Dieu exerce son jugement, eh bien, c'est un jugement qui est terrible. Il n'y a personne qui s'en sort. Et pourtant, Dieu avait implanté son Église à travers la personne de Jésus-Christ pour que nous puissions être cette lumière apportée à travers le monde qui vit et qui baigne dans les ténèbres. Regardez au verset, les versets 7 et suivants. Dieu répond en enseignant à Jonas quelles sont ses priorités. Alors que Jonas commençait à apprécier l'ombrage que lui donnait le ricin, Dieu va envoyer un ver pour détruire le ricin. La colère de Jonas, ça va monter d'un cran. Mais cette fois, Dieu va mettre les pendules à l'heure avec Jonas. Il rappelle à Jonas qu'il se souciait plus du bien-être que lui apportait le ricin que les âmes des gens de Ninive, qui sont comme lui des gens créés à l'image de Dieu et qui auraient péri s'il n'était pas intervenu. Chaque fois que je relis ces versets, Je vois pratiquement la même attitude dans ma vie. Nous avons tendance à nous fâcher contre des choses qui ont peu d'importance et à rester fixés sur la dernière chose qui nous a fracassé et qui nous a empêché de dormir pendant la nuit. Maintenant, pourtant, quelle importance auront les choses pour lesquelles nous serons tracassés dans 100 ans, frères et sœurs? Tout le monde l'aura oublié. Vous l'aurez oublié puisque vous serez morts. Et en plus, il y a des statistiques qui disent que 80% des choses pour lesquelles nous nous inquiétons n'arrivent jamais. C'est incroyable. Oui, mais tout à coup, en fin du mois, je n'ai pas mon chèque à telle date qui vient pour une journée de plus. Combien on s'inquiète pour rien? Combien on s'inquiète pour rien? Et le Seigneur, il nous connaît. Ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine, dit l'Éternel. Frères et sœurs, à mesure que nous avançons dans cette vie, la seule chose qui compte vraiment, c'est de faire la volonté de Dieu, de marcher avec Dieu. Car le monde est en train de passer ainsi que tout ce que les hommes trouvent à y désirer. Mais celui qui fait ce que Dieu veut vivra éternellement. Le ricin était bon parce qu'il donnait de l'ombre à Jonas. Le ver était mauvais aux yeux de Jonas parce qu'il avait piqué le ricin. Le vent de l'Est était très mauvais, encore une fois, aux yeux de Jonas parce qu'il le dérangeait dans son confort. Pourtant, toutes ces choses venaient de Dieu. C'était le même Dieu qui avait fait pousser le ricin, qui avait également envoyé le ver et qui avait envoyé le vent brûlant. La vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que Jonas serait heureux dans sa vie seulement quand Dieu ferait en sorte que tout aille bien? Et comme Jonas le voulait. Et c'est une question qu'on peut se poser parce qu'on rencontre des chrétiens qui sont comme ça. Ils aiment Dieu, ils adorent Dieu quand tout va bien dans leur vie, quand ils ont l'impression que Dieu fait leur volonté, non pas qu'eux font leur volonté. Mais à partir du moment où Dieu intervient dans leur vie, que ça dérange un peu, eh bien souvent on voit des chrétiens qui ont l'attitude de Jonas. Comment va-t-il réagir quand Dieu va répondre autrement à ses attentes? Qu'en est-il de nous, frères et sœurs? Comment réagissons-nous quand Dieu répond autrement à nos attentes? Il y a un poste qui se dégage en Église, on se dit, « Ah, Seigneur, c'est probablement à moi que tu appelles. Montre-moi, Seigneur, que tu m'appelles à ce poste-là. » Et pourtant, on n'a pas de signe. Et on, finalement, à force de se le dire, se le répéter, on finit par être convaincu. Et quand c'est quelqu'un d'autre, l'Assemblée confirme que c'est quelqu'un d'autre, eh bien là, on finit par avoir l'attitude de Jonas. Ouais. Et on oublie que c'est Dieu qui appelle, c'est pas nous qui choisissons. Que c'est Dieu qui appelle, que c'est lui qui donne les dons. Et finalement, ben, parce que Dieu ne répond pas à nos attentes, eh bien, on tire la tête un peu comme Jonas. Je trouve que Jonas, c'est une bonne leçon parce que peu importe le degré d'identité qu'on peut avoir avec Jonas, on peut tous se reconnaître à travers Jonas, tous, à différents degrés. Jonas, cela m'amène à une terrible conclusion. Il est parfaitement possible d'obéir à Dieu en ayant de très mauvaises attitudes, c'est-à-dire en faire ce que Dieu nous demande, mais à contre-cœur. Cela semble en fait décrire Jonas du début jusqu'à la fin. Non seulement il n'a jamais laissé paraître une grande joie de vouloir obéir à Dieu, mais il n'a jamais manifesté aucun sentiment de compassion pour les perdus, et ce, même lorsqu'il priait dans le ventre du poisson. C'était « me, myself and I », moi, Seigneur, moi. Il donne l'impression qu'il a prié parce que Dieu l'avait acculé au mur et qu'il n'avait pas d'autre choix. Même si j'admets que c'est très humain d'agir ainsi, il n'y a rien qui montre clairement dans le texte qu'il aimait le Seigneur. Frères et sœurs, Dieu ne se satisfait jamais d'une simple obéissance extérieure. Il veut que notre obéissance vienne de notre cœur et que nous fassions avec joie et non à contre-cœur ce qu'il nous demande. Nous pouvons cacher aux gens nos véritables intentions qui nous poussent à le servir, mais nous ne pouvons pas le cacher au Seigneur. Il fera alors pousser un ricin et il fera venir un ver qui piquera le ricin dans votre vie et le ricin séchera. Il y agira ainsi afin que nos cœurs soient transformés. Puisque le livre se termine par une question et non pas par une affirmation, cela signifie que la réponse finale ne doit pas venir du prophète, mais de vous et moi, frères et sœurs. C'est très rare qu'un livre se termine par une question, mais dans le cas ici, eh bien, c'est exactement ça, ça se termine par une question. Dieu révèle à Jonas sa compassion qu'il a pour les perdus. Et moi, voilà la question, c'est comme ça que le livre se termine. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Et comme je viens de le dire, frères et sœurs, l'histoire de Jonas ne se termine pas par une affirmation, mais par une question. Ne devrais-je pas me préoccuper de cette grande ville, dit le Seigneur? La réponse est évidemment bien sûr que oui. Si Dieu est préoccupé par cette grande ville, Alors Jonas devrait être lui aussi préoccupé. Et en terminant par une question et non par une affirmation, le livre de Jonas nous laisse avec un problème en suspens. Aurons-nous à cœur les Ninivites de notre monde, comme c'est le cas pour Dieu, frères et sœurs? Ou allons-nous les détester, comme Jonas détestait la ville de Ninive? Cette histoire de Jonas parle à ceux qui préfèrent ne pas s'impliquer dans le monde. Bien souvent, nous préférons demeurer dans notre petit nid douillet, confortablement installé dans notre routine quotidienne, en nous contentant que nos relations se limitent aux gens que nous rencontrons entre les quatre murs de l'Église. Frères et sœurs, cette histoire, elle nous révèle deux problèmes qui résidaient dans le cœur de l'homme, dans le cœur de Jonas, pardon. Le premier problème, qui est très apparent, c'est qu'il n'avait aucune compassion pour les habitants de Ninive. Je n'ai pas remarqué, moi, c'est une question qu'on pourrait se poser tout de suite. Est-ce que nous avons une compassion pour les gens de Ninive, frères et sœurs? C'était un problème apparent chez Jonas, et c'est un problème qui est apparent chez ceux qui agissent, qui pensent comme Jonas. Son deuxième problème, qui est beaucoup plus profond, c'est celui-ci, c'est qu'il n'aimait pas voir Dieu le déranger dans son train-train quotidien. On pourrait se poser la même question ce matin, est-ce que ça nous dérange quand Dieu nous dérange dans notre train-train quotidien? Quand Dieu vient nous sortir un petit peu de notre routine et qu'il nous demande de nous lever pour servir à tel niveau. En fait, le vrai problème de Jonas, frères et sœurs, c'était Dieu. Il avait une vision de Dieu qui était limitée. Voilà pourquoi il se limitait à en faire le moins possible pour Dieu. Il avait vraiment saisi qu'il servait le Dieu de l'impossible. Sa vision de Dieu, elle était limitée. Et souvent dans nos églises, le chrétien ne sert pas Dieu comme il devrait servir parce qu'il a une vision limitée de qui est Dieu. Il est intéressant de remarquer que le plus grand problème auquel Dieu a eu à faire face dans cette histoire, ce n'est pas avec les gens méchants, cruels et sanguinaires de Ninive. Parce qu'au moment où ils ont entendu le message, ils ont cru. Et ce, malgré leur cœur méchant, malgré leur cruauté. C'est une vérité qui fait réfléchir, parce que dans cette histoire, les païens ont été plus prompts à croire que l'homme de Dieu. Ce fut le cas pour les marins au chapitre 1 qui se sont convertis. Et ce fut le cas aussi au chapitre 3 pour les gens de Ninive. Ils adoraient le Seigneur. Il y a un réveil. Ils ont commencé à jeûner. Et Jonas était toujours avec le même problème. Pourquoi, Seigneur, tu les as sauvés? Je ne comprends pas. C'est pas correct, Seigneur. Le problème, ce n'est pas que les gens de cette génération ne savent plus distinguer leur droite de leur gauche. En d'autres mots, qu'ils ne savent plus faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Le problème, c'est que comme Jonas, nous courons souvent dans l'autre sens afin de ne pas avoir aimé le monde que Dieu aime. Le problème, ce n'est pas tout le mal que nous voyons autour de nous et que nous condamnons si rapidement. Le problème, c'est que nous ne prions pas pour les gens qui prennent plaisir à vivre dans la méchanceté et que nous disons détester. Frères et sœurs, si nous prions pour le salut de nos enfants, que nous ne prions pas pour le salut des gens du monde, vous pouvez vous attendre à ce que Dieu ne réponde pas à votre prière. Parce que Dieu n'aime pas seulement vos enfants, il aime tout le monde. Et ça nous permet d'évaluer la raison qui nous pousse à intercéder auprès de Dieu pour le salut de nos enfants. Dieu aime tous les enfants du monde. Dieu aime tous les gens du monde. Et on a besoin dans nos prières de prier pour le monde entier. Parce que le monde entier est malade. Le monde entier s'en va à la dérive. Le monde entier ne sait pas vers où il se dirige. Le problème, c'est que nous ne prions pas pour que les gens qui prennent plaisir à vivre dans la méchanceté que nous disons détester. Leur vie de péché est en train de les détruire, les amener directement en enfer et nous ne prenons même pas la peine de prier pour eux. Nous disons parfois dans une totale indifférence que le monde entier s'en va à la perdition, et c'est vrai. Mais le problème n'est pas là. Le problème, ce n'est pas le monde, frères et sœurs. Le problème, c'est l'Église. Le gros problème de Dieu, ce n'est pas avec les pécheurs. Son gros problème, c'est avec ceux qui se disent chrétiens. Que nous voulions l'admettre ou non, nous ressemblons un peu beaucoup à Jonas. Voilà pourquoi nous sommes si indifférents au sort du monde. Il y a beaucoup de Jonas dans le cœur de la plupart d'entre nous, en soi. J'aimerais terminer avec trois points importants qui nous interpellent à travers ce livre. D'abord, Dieu aime Ninive. Dieu aime Ninive. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que Dieu aime Ninive? Où se trouve maintenant Ninive aujourd'hui? Ninive, c'est Bruxelles. Ninive, c'est Liège. Ninive, c'est votre voisin d'à côté. Celui que vous n'aimez pas parce qu'il n'entretient pas son terrain, qui laisse plus traîner, qui fait trop de bruit et dont les enfants vous embêtent continuellement avec leurs cris. Ninive, c'est votre patron qui agit comme un abruti. Ninive, c'est l'homme ou la femme assis à côté de vous dans un restaurant ou dans un bus. Ninive, c'est quelqu'un que vous croisez dans un centre commercial portant des vêtements qui ne sont plus de son âge, mais qui les porte parce qu'elle veut tellement qu'on la remarque. Elle a pris l'âge et elle est tellement malheureuse de voir qu'en vieillissant, il y a si peu de monde qui s'intéresse à elle. Ninive, c'est aussi cette femme qui a eu 5 maris et qui vit maintenant avec un homme qui n'est pas son mari. Tout le monde l'évite et pourtant elle est tellement soif d'être aimée. Jésus s'est intéressé à elle, peu importe ce qu'elle avait fait dans sa vie, parce qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Frères et sœurs, on sait que sans Dieu, sans Jésus, le monde ne peut pas être heureux, parce qu'on a été créé pour aimer et être aimé. Et tant aussi longtemps que le monde n'a pas rencontré, n'a pas goûté à l'amour de Dieu, désespérément, les femmes cherchent leur amour à être aimées auprès des hommes, et elles sont toujours déçues. Et les hommes cherchent à être aimés par les femmes, et ils sont toujours déçus, parce que c'est un amour humain. Et l'amour que Dieu, dont Dieu parle, que les Écritures parlent, c'est un amour qui vient d'en haut. C'est un amour qu'on ne peut pas recevoir sur cette terre de aucun être humain. Seul Dieu peut nous donner cet amour à travers la personne de Jésus-Christ. Et quand on l'a, on a trouvé le trésor de notre vie. Quand on l'a, on a trouvé ce qu'on a toujours cherché dans notre vie. Est-ce que vous êtes amené à ça? Frères et sœurs, Ninive, ce n'est pas seulement le nom d'une ville. Ninive symbolise l'ensemble de tous les peuples du monde rassemblés ensemble. Où que vous alliez, vous trouverez Ninive dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance de séduction, dans tout son amour pour acquérir toujours plus de richesses, dans tous les drames que les gens vivent au quotidien et dans tout le mal et les abus que vous pouvez imaginer. Ces choses sont omniprésentes dans notre monde. Le bon et le mauvais se mêlent ensemble, ainsi que la lumière et les ténèbres. Frères et sœurs, regardez autour de vous. Vous vivez à Ninive, vous travaillez à Ninive. Toute votre vie est vécue et dans et autour de cette ville. Personne ne peut y échapper. Le message est clair. Dieu aime toujours Ninive. Il aime toujours les gens qui vivent dans la grande ville. Peu importe à quelle classe ils appartiennent, et peu importe le métier ou la profession qu'ils pratiquent. Parfois, nous ne voyons que le mal et nous disons nous-mêmes, Dieu doit haïr ces gens dans cette ville. Mais non, Dieu aime toujours cette ville et les gens qui habitent, frères et sœurs. C'est nous, finalement, qui devons apprendre à aimer ces gens qui habitent dans cette ville. Il est beaucoup plus facile pour nous de rien faire que de faire. Il aurait été beaucoup plus facile pour Jésus de rester en haut que de venir en bas. Mais parce qu'il nous aime, il est venu donner sa vie pour nous, pour vous, pour moi. Il n'y a rien qui puisse faire, Dieu est toujours prêt à faire tout ce qu'il faut pour que vous alliez à Ninive. Pour Jonas, cela signifiait passer 3 jours et 3 nuits dans ce ventre d'un grand poisson. Qu'est-ce que Dieu doit faire pour vous obliger, pour m'obliger, pour nous obliger à y aller? Nos églises sont remplies de Jonas des temps modernes qui ont décidé d'être en vacances toute l'année et de partir en croisière à Tarsis. Peut-être que vous faites partie de ce nom, je ne sais pas, je ne porte pas de jugement. C'est simplement que je veux vous amener à réfléchir. Êtes-vous heureux dans la vie chrétienne que vous vivez? Jésus nous a donné un mandat, aller faire de toutes les nations des disciples. Et dans Jean chapitre 13, il dit, vous connaissez ces choses, vous serez heureux si vous les pratiquez. Frère, ça sert d'une grosse partie du bonheur du chrétien, c'est de rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans sa vie. Il est impossible d'avoir ce plein bonheur, ce bonheur que Dieu nous promet dans sa parole, si on ne partage pas aux autres ce qu'on a vécu. D'abord, partager aux autres ce qu'on a vécu à travers Christ, c'est déjà démontrer qu'on l'a rencontré, c'est déjà démontrer qu'on est né de nouveau, qu'une nouvelle vie en lui. Peut-être que Dieu vous a parlé dans le passé que vous avez dit, je ne pense pas que je suis appelé à faire ça. Si c'est votre cas, j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle pour vous ce matin. La bonne nouvelle, c'est celle-ci. Ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, Dieu fera lever une tempête dans votre vie. La mauvaise nouvelle, c'est celle-ci. Vous feriez mieux de commencer à vous inquiéter parce que Dieu va envoyer aussi un grand poisson. Il y a un vieux cantique chrétien qui dit, Dieu ne vous envoie jamais contre votre volonté. Il vous aide juste à vous donner envie de partir. Et ça, c'est un beau cantique. Il est en anglais, malheureusement, mais c'est un très beau cantique. Dieu ne forcera jamais, parce que c'est contraire à l'amour de forcer quelqu'un à faire le contraire de ce qu'il veut faire. Mais Dieu a toutes sortes de méthodes. Et Dieu va faire en sorte de travailler dans votre vie, de provoquer des choses dans votre vie, qui, tôt ou tard, vont vous donner envie de partir. Ô combien cela est vrai, Dieu ne nous forcera jamais à aller à Ninive, mais il va rendre notre vie tellement misérable jusqu'à ce que nous décidions d'y aller par nous-mêmes, comme il l'a fait pour Jonas. Il agira de manière à ce que nous ayons juste envie de partir. Et vous savez ce qui va arriver quand on aura décollé, comme un avion qui décolle. On va simplement regretter sans avoir répondu à l'appel de Dieu avant. Parce qu'on a un bonheur incroyable à servir le Seigneur, à parler de ce que Jésus a fait dans nos vies. Pensez-y, malgré toute la cruauté et la brutalité qui régnait à Ninive, les habitants de cette ville étaient prêts à se tourner vers Dieu. Les gens ne le savaient pas, ils n'étaient pas conscients de leurs besoins. Ils venaient chez vous, ils ne cherchaient même pas Dieu, ces gens. Mais Dieu qui voit tout savait que les gens de cette ville, qui vivaient dans le péché, étaient prêts et disposés à se tourner vers lui. Si seulement ils pouvaient trouver quelqu'un avec le bon message, une personne qui oserait aller et livrer son message de repentance, Jonas était l'homme de Dieu pour Ninive. Les frères et sœurs en Christ sont les hommes et les femmes de Dieu pour Liège, pour Bruxelles, pour la Belgique. Il y a tellement de villes qui ressemblent à Ninive aujourd'hui, et Dieu cherche toujours quelqu'un pour y aller. Mais elle correspond à un endroit bien spécifique. C'est le seul endroit où Dieu veut que vous alliez. Elle est réservée pour une seule personne et c'est vous qui pouvez l'atteindre. Et cette opportunité que Dieu offre, c'est vous seul qui pouvez y répondre. Vous avez une personne de Ninive près de vous en ce moment. C'est peut-être un ami, c'est peut-être un voisin. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre équipe de foot, de volleyball. Qui sait? Ça pourrait être votre mari, votre enfant, votre femme. La personne de Ninive pourrait être quelqu'un que vous aimez et dont le comportement n'a provoqué que de la colère et de l'amertume dans votre cœur. Finalement, Ninive représente tout ce qui fait partie de la volonté de Dieu, vers qui il veut vous appeler à aller. Vous avez peut-être peur d'y aller, pourtant Dieu veut que vous vous rendiez là-bas, même si vous avez peur de parler, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce que vous avez à leur dire à propos de Jésus-Christ. Vous avez peur de faire ce pas, mais Dieu dit, fais-moi confiance, je serai avec toi. Le chantait à travers les cantiques ce matin, c'est une promesse du Seigneur. C'est une promesse du Seigneur. Dieu vous appelle à la Ninive aujourd'hui, que ferez-vous? Si vous ne voulez pas y aller et que vous préférez aller à Tarsis, c'est votre décision. Mais rappelez-vous le grand poisson. Le monde est mauvais et méchant. Allez quand même leur parler. Les gens sont cruels. Voulez-vous leur parler de l'amour de Dieu? Vous dites, je ne veux pas y aller. Dieu dit, je vais quand même te préparer à partir. Je me souviens de cette publicité sur une voiture qui tombe en panne et qu'une voix dit au propriétaire de la voiture. Vous pouvez le faire facilement ou vous pouvez le faire en primant dur. L'idée véhiculée dans cette publicité, c'était d'amener les gens à réaliser que c'était d'amener les gens à réaliser que la prévention coûte beaucoup moins cher que la réparation. Dans un certain sens, c'est ce que Dieu dit dans le livre de Jonas. Nous pouvons le faire facilement, ou nous pouvons servir Dieu facilement, et ou nous pouvons le servir à la dure, mais nous allons quand même le faire parce que Dieu désire que nous le fassions et que Dieu a encore un grand cœur pour les gens à l'extérieur. Il ne restera pas assis en silence pendant que ses enfants lui désobéissent. Vous pouvez dire, en terminant, vous pouvez dire où est l'Évangile dans cette histoire? Eh bien, je vous réponds que l'Évangile est partout dans l'histoire de Jonas. C'est pourquoi aucun signe, dit Jésus, ne sera donné, autre que le signe du prophète Jonas. Et il dit, il y a plus grand que Jonas, ici. Et Jésus ajouta, car Dieu a tellement aimé Ninive, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui à Ninive ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle est votre intention ce matin? Jonas ne se souciait pas de la destinée éternelle des gens de Ninive. Tout ce dont il se souciait, c'était sa réputation de prophète et les préjugés insensés qu'il transportait avec lui dans son cœur depuis tant d'années. Il a appris, ou du moins nous l'espérons, que la volonté de Dieu dans ce monde est tout ce qui comptait vraiment. N'est-il pas le temps de mettre de côté toutes les choses qui obscurcissent notre vision concernant ce que Dieu veut pour nous? N'est-il pas temps de mettre de côté nos blessures, nos désirs, et ce que nous voulons faire afin que nous puissions faire sa volonté concernant le monde. Jonas souffrait parce qu'il ne se souciait pas de faire la volonté de Dieu. De quoi vous souciez-vous le plus aujourd'hui, frères et sœurs? Si quelque chose est plus important pour vous que de faire la volonté de Dieu, alors je vous invite à remettre en question vos priorités, parce que tôt ou tard, Dieu fera lever une tempête dans votre vie et enverra un gros poisson. Dieu est un Dieu qui est bon. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu aime autant les gens d'avant que les gens d'aujourd'hui que les gens de demain. Dieu aime autant Dorothée qu'il a aimé Christine, qu'il a aimé Jacques et qu'il a aimé Ernest. Dieu aime tout le monde. Ce que Dieu veut, c'est d'en rajouter le plus grand nombre dans sa famille parce qu'il connaît le cœur des gens. Les gens sont désespérés. Et Dieu veut faire à travers nous, veut nous montrer à travers Jonas que peu importe ce que nous pensons, la priorité du cœur de Dieu, c'est de faire en sorte que son royaume s'agrandisse, son royaume progresse, et qu'il n'y a pas d'autre solution, pas d'autre moyen qu'à travers ceux et celles qui disent être vraiment des enfants de Dieu, ni de nouveau. Amen. On va prier. Prions. Seigneur, élargis notre vision pour que nous puissions voir le monde tel que tu le vois. S'il te plaît, fais en sorte que nous rassemblions moins Jonas et plus à Jésus. Accorde-nous une vision rafraîchie vis-à-vis de ceux que nous rencontrons. Renouvelle en nous une compassion pour ceux qui par nature nous répugnent. Seigneur, opère une chirurgie à notre cœur et remplace, Seigneur, ce qui manque par ton amour, notre colère, notre peur et notre hésitation. Remplace tout cela par ton amour. Que le Saint-Esprit nous remplisse d'une vraie compassion dans chaque partie de notre être. Donne-nous tes larmes, Seigneur, pour les gens de Ninive qui habitent tout autour de nous. Et donne-nous les cœurs pour aller joyeusement annoncer la bonne nouvelle qui parle de Jésus-Christ. Et c'est en son nom que je te demande des choses. Le peuple de Dieu dit,
Amen.
Très vite à vous lever, on va chanter un dernier cantique.